Les lectures aujourd'hui nous interrogent sur la manière dont nous recevons la parole de Dieu, dont nous recevons l'Écriture. Saint Paul salue les Thessaloniciens, ces gens de Macédoine, qui ont accueilli l'Évangile. Et il cite ici « Votre renommée est grande ». Comment ont-ils accueilli cette expression qui est tout à fait étonnante? Vous avez commencé à nous imiter, nous et le Seigneur, il y a une tradition, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit-Saint. Nous sommes invités à écouter la parole, mais non seulement l'écouter, l'accueillir, la recevoir, et la recevoir avec joie. Et chose étonnante, ils n'ont pas reçu une parole, j'allais dire, facile dans un sens, parce que c'était au milieu des épreuves. Et ils ont eu à travailler, ils ont eu à se convertir, ils ont eu à faire de la place en eux, mais cette parole a produit du choix, du plan de choix. En face, nous avons dans le chapitre 22 de Matthieu, que nous sommes en train de lire déjà depuis plusieurs dimanches, ces disputes théologiques, ces ergotages avec Jésus. On a eu les Sadducéens, on a eu, là on a les pharisiens aujourd'hui, avec ces différentes questions à Jésus, et à chaque fois pour lui poser un piège, non pas pour découvrir la vérité, non pas pour découvrir ce que Jésus avait dans le cœur, ce qu'il veut dire, mais pour le prendre en défaut. Alors ici, nous, dans notre culture aujourd'hui, on a un petit peu de mal à voir en quoi il est en train de vouloir le prendre en défaut, parce que ça semble une question simple, ça semble aussi, même au temps de Jésus, dans un sens, c'est une question qui était beaucoup, beaucoup commentée, parce qu'effectivement, il y a les 613 préceptes qui sont donnés, puis qui sont classés de manière différente, avec des plus importants, des moins importants. Mais voyant Jésus, Jésus est tout à fait inclassable, parce que dans son sermon sur la montagne, il montre des exigences de la loi encore plus grandes, parce que ce n'est pas simplement dans les actes qu'il faut accomplir la loi, tu ne tueras pas, c'est dans l'intention, c'est de purifier le cœur, c'est de nous purifier de la convoitise, du moteur qui nous amène à faire le mal. Alors, c'est pas seulement quand tu tueras ton voisin ou que tu le blesseras avec une arme, mais c'est aussi quand tu l'appelleras renégat, imbécile, etc. Et puis de l'autre côté, Jésus est énormément accueillant aux pauvres, aux pécheurs, aux blessés de la vie, aux gens perdus qui sont hors toute vie bien, bien pieuse et bien droite. Et ça fait le fond un peu des gens qui le suivent, qui l'écoutent, qui l'acclament, qui accueillent sa parole, qui se réjouissent. Et donc ils sont un peu perdus, comme nous risquerions d'être tel groupe d'église ou de l'autre, les uns plus légalistes, les autres plus ouverts et réformistes, etc. Or, il y a un piège, parce qu'ils veulent mettre Jésus dans un carcan, dans des idées toutes faites, dans des opinions. Or, Jésus est immensément libre. Ce qui leur rappelle, dans les difficultés que les Thessaloniciens ont rencontré, il y en a de différentes sortes, mais il nous dit ensuite, ils racontent l'accueil que vous avez fait et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles. Parce que voilà le grand problème de la Bible, voilà le grand problème de nos vies, qui est l'idolâtrie. On n'est peut-être pas très souvent habitué à une prédication sur ce thème, parce qu'on pense que l'idolâtrie, c'est les choses que faisaient les anciens avec des statues, etc. Et pourtant, c'est la prédication essentielle de la Bible. Abraham est appelé pour justement sortir de l'idolâtrie, et Jésus est ce courant avec la loi, avec les prophètes, jusqu'à Jésus, est important, où Jésus nous dit à la Samaritaine, ce n'est pas à Jérusalem ou à Sichem qu'il faut prier, mais c'est en esprit et en vérité. En quoi consiste l'idolâtrie? L'idolâtrie, elle consiste en projeter dans une image, dans une représentation, elle peut être extérieure, elle peut être intérieure, les forces du monde, les forces que nous voyons gouverner le monde et j'allais dire en faire l'objet, en vouloir l'installer. Si bien que, par exemple, l'exemple dans la Bible, c'est le veau d'or. Quand Moïse ne revient pas du mont Sinaï, eh bien, il commence à désespérer. Il demande à Aaron, le frère de Moïse, qui fait office de prêtre, il lui demande de faire la statue d'un veau, le veau d'or. Et ce n'est pas contre le Dieu d'Israël qu'ils veulent faire, parce que c'est « voici le Dieu qui nous a fait sortir ». Mais ils ont concentré l'image de Dieu simplement sur la force, cette représentation de la force. Or, Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos boîtes, dans nos désirs, dans nos conceptions. Et il est celui qui mène son peuple, qui le mène par des chemins. C'est vrai que c'est dans la libération, que dans le cri vers le Seigneur, la libération du mal, le mal qui est autour de nous, à l'intérieur de nous surtout, eh bien qu'il nous libère. Et c'est là où nous faisons l'expérience de Dieu, comme nous le rappelle d'ailleurs la loi de Moïse que nous venons de lire. On a passé en revue toutes les pauvretés, les immigrés, les gens sans toit, sans patrie, qui ont du mal à être accueillis dans les pays, parce qu'on trouve que ça pose problème. Ou la veuve et l'orphelin, on pourrait traduire aujourd'hui les gens qui sont arrivés en fin de droit. Et qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Eh bien, si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. C'est... S'il crie vers moi, le pauvre, eh bien, je l'écouterai. Et comme on est encore sous la loi et une loi extérieure, il y a une sorte de châtiment qui est lié comme pour pousser, mais avec le Nouveau Testament, ce n'est plus ce châtiment qui est donné, parce que normalement, c'est cette loi intérieure, l'Esprit Saint reçu à l'intérieur, qui nous pousse à aimer de cette manière. Mais cette idolâtrie, cette manière de voir, c'est simplement regarder, résumer Dieu aux pensées qu'on a sur lui. Alors, ou dans la vie fraternelle, puisque Jésus met un équivalent entre les deux commandements, eh bien, avec mon prochain, je me fais une image de lui. Je me fais une représentation. Et j'ai mes attentes sur lui. Et finalement, au bout d'un moment, je parle avec l'autre comme je me le suis imaginé, mais non pas comme il est. Du coup, les distances qui peuvent arriver dans les couples, dans les familles, dans les amitiés, qui peuvent se faire parce que finalement, on ne se reconnaît plus, parce que l'autre attend de moi un bonheur peut-être qu'il a eu un temps avant, un moment, mais... Moi, je suis plus large, je suis plus grand que l'image que l'autre se fait de moi. Et vous avez dans cette expression de Saint Paul ici, ils disent comment vous vous êtes converti à Dieu. C'est comment vous vous êtes tourné vers Dieu. Et si vous êtes attentif, c'est le même mot qu'il y a dans le prologue de Saint Jean. Le verbe qui est tourné vers le Père. Nous sommes appelés à vivre non pas à partir de nos idées sur Dieu, mais à partir de la présence du Seigneur. Et cette présence, comme je le disais, dans le peuple d'Israël et dans l'expérience chrétienne, c'est la même chose, c'est à partir de cette libération qu'il procure la joie, de cette force de l'Esprit-Saint qui nous libère de nos chaînes, qui nous libère de nos obscurités, qui nous libère de et qui nous fait passer finalement les épreuves, non pas comme si, pas si elles étaient des épreuves, mais en gardant une joie profonde, peut-être pas exubérante dans les grandes épreuves, mais en gardant une énergie de la vie que Jésus a su marquer. Regardez dans le combat de l'agonie, c'est un combat, il est pratiquement mort d'angoisse, mais il prie, il invoque cette prière mystérieuse au sens où elle est plus grande que nous, et qui est le sommet de la révélation de Jésus. Abba, Père, si ce calice peut s'éloigner de moi, hein, qu'il s'éloigne, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il se tient dans la réalité de sa vie, mais avec cette ouverture à l'amour de Dieu qui le soutient. Il est tourné vers son Père, c'est cette confiance de Dieu en lui, tu pourras aller jusqu'au bout de ce que tu es, jusqu'au bout de ta mission, ne crains pas. Et c'est dans cette confiance et dans cette joie de cette confiance du Seigneur que nous sommes appelés à vivre. Alors effectivement, ici, vous voyez la réponse de Jésus et aussi ce que dit saint Paul aux Thessaloniciens. Nous sommes libérés des idoles, les idoles païennes, mais on peut même faire des choses les meilleures, du lien avec Dieu dans la religion comme une idole. Alors on s'enferme par exemple, c'est pas la seule chose, mais par exemple dans un légalisme. Et puis c'est faire ceci, faire cela qui est important. Alors que nous avons à revenir à ce contact vivant avec le Seigneur. Dans la messe, c'est la même chose. On pourrait assister à la messe d'une manière tout à fait extérieure, comme un spectacle. Et puis c'est toujours un mauvais spectacle quelque part, parce que ce n'est pas un spectacle. Mais c'est l'offrande, l'écoute, l'accueil et l'offrande de nous-mêmes. Cette mise dans le courant de vie, dans le courant d'amour de Jésus vers son Père, qui prend toute notre humanité, toute notre réalité, et qui la tourne vers le Seigneur. Il est impressionnant d'entendre Jésus dire que ces deux commandements, ils résument toute la loi. Et non seulement ils résument toute la loi, mais ils font la paire. Ils n'en sont pas le même, mais ils ont la même proportion. On peut être aussi bien idolâtre vis-à-vis des personnes que vis-à-vis de Dieu. Et on le devient très vite en devenant, en pensant comme tout le monde, ou suivant les modes, ou en pensant simplement, en rentrant dans des idéologies, etc., des idées toutes faites qui nous rassurent de ce qu'on pense être ce qui gouverne le monde. Alors qu'il nous faut tenir sous le souffle de l'Esprit-Saint. Pour cela, il nous faut accueillir le Seigneur, lui demander cette relation vivante, nous laisser, j'allais dire, libérer par le Seigneur, nous laisser visiter jusque dans nos pauvretés, jusque dans nos obscurités, en sachant que le Seigneur est venu, les a portés, les a rachetés par son sacrifice. Mais pas simplement pour qu'on soit racheté, qu'on vienne des gens bien, qui changent de camp, mais pour qu'avec Jésus, nous puissions, comme nous le faisons dans la messe, offrir ce que nous sommes au Seigneur et lui demander de nous transformer, lui demander de nous purifier en profondeur, nous demandant de rentrer dans ce courant et devenir évangélisateur, c'est-à-dire devenir prêtre, comme dit la Bible, vous êtes le baptême, tu deviens prêtre, prophète et roi, où nous entraînons aussi tous ceux que nous aimons à la suite du Seigneur dans ce courant de vie. Demandons au Seigneur de rentrer toujours plus dans cette relation vivante avec lui.